thème de 3D aujourd'hui, eh bien, ce sont les visages cachés de la guerre en Syrie.
3D, le journal de Stéphane Paoli. France Inter.
Bonjour et bienvenue à vous tous pour ce 3D qui est consacré à la Syrie, mais d'une façon assez particulière. Et en préambule très court, vous dire qu'évidemment, s'agissant de Bachar el-Assad, il s'agit d'un homme qui désormais relève du tribunal pénal international pour au minimum crimes contre l'humanité. Cela va de soi, mais il faut parler de tous les autres qui ont une importance considérable sur ce qui se passe en ce moment même en Syrie. Nous allons donc parler de l'Arabie Saoudite. Nous allons parler du Qatar. Nous allons parler de l'Iran. Nous parlerons aussi de la Turquie, de la Russie, de la Chine. Et puis nous parlerons de nous qui faisons si peu de choses et qui regardons si mal ce qui se passe là-bas. Pour le faire, je serais tenté de dire trois grands, chacun à sa façon, mais trois grands serviteurs de l'État. Alain Chouet. Bonjour Alain Chouet.
Bonjour.
Merci de votre présence. Vous êtes l'ancien chef du service de renseignement de sécurité de la DGSE, c'est-à-dire de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Vous avez signé plusieurs ouvrages, dont un qui a pour titre « Au cœur des services spéciaux, la menace islamiste, fausse piste et vrai danger ». C'est un livre d'entretien avec le journaliste Jean Guinel. C'est un livre qui vient de paraître là très récemment aux éditions de La Découverte. Et puis vous avez aussi signé « La sagesse de l'espion ». C'est aux éditions L'Œil Neuf. C'est un ouvrage un peu plus ancien. À vos côtés, Xavier Guillou. Bonjour, monsieur Guillou. Merci aussi à vous d'être là. Vous êtes un spécialiste de la prévention des risques, de la gestion des crises et de l'aide à la décision stratégique. Et vous dirigez XAG Conseil, qui est un cabinet qui est spécialisé précisément dans la prévention des risques et la gestion de crise. Et puis Jacques Berès, vous aussi grand serviteur de l'État à votre façon. Merci d'être là, monsieur Berès. Et bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien. Vous avez été cofondateur de Médecins Sans Frontières, puis cofondateur de Médecins du Monde. Vous avez opéré partout, dans tous les conflits. On vous a vu au Vietnam, on vous a vu au Liban, et on vous a vu beaucoup, tous ces derniers mois, en Syrie, opérer dans des conditions, enfin, je ne sais même pas s'il existe des mots qui puissent qualifier ce que vous avez vu et vécu. On y reviendra tout à l'heure. Avant de rentrer sur une tentative d'explication d'une situation extraordinairement complexe, peut-être tout de même les rumeurs de la semaine avec... sûrement les rumeurs de la semaine avec Caroline Cartier.
Un drapeau américain brûlé dans les rues de Sanaa au Yémen, où un manifestant a même trouvé la mort ce matin.
Équilibre.
Sanaa après Benghazi, mais aussi le Caire, Bagdad ou Kaboul. La colère de la foule s'étend comme une traînée de poudre.
Enseigner est-il devenu un métier à risque? En 24 heures, deux professeurs ont été frappés, l'un par un élève, l'autre par la mère d'un enfant.
L'Amérique est attaquée et la date, le 11 septembre, n'est certainement pas un hasard. Parmi les quatre personnes tuées la nuit dernière, l'ambassadeur en personne, pourtant très proche des révolutionnaires libyens.
Et c'est dans ce contexte explosif que le pape continue sa visite au Liban. Le chef de l'Église catholique vient délivrer un message de paix. Il appelle notamment tous les responsables religieux de la région, juifs, chrétiens et musulmans, à mettre un terme à la menace fondamentaliste.
Il y a quelques semaines, c'est le cardinal André XXIII, président des évêques de France, qui avait appelé les diocèses du pays à organiser des prières s'opposant implicitement au mariage homosexuel.
Il s'agit d'une évolution majeure pour la société.
Mettre un terme à la menace fondamentaliste.
Poudre. Le mariage homosexuel ouvrirait la voie à la polygamie, à l'inceste. C'est le message que tente de faire passer l'archevêque de Lyon, le cardinal Philippe Barbarin, exprimant ses craintes sur un plateau de télévision.
Parce qu'après, ils vont vouloir faire des couples à trois ou à quatre. Après, un jour peut-être, je ne sais pas pourquoi l'interdiction de l'inceste tombera. Enfin,
c'est une rupture de société, vous.
Oui, c'est une rupture de société.
Fondamentaliste. Un pamphlet où le prophète Mahomet est présenté entre autres comme un coureur de jupons et un pédophile. À l'origine de ce déchaînement de violence, ce film, L'innocence des musulmans.
Le prince britannique est hors de danger, mais deux de ses collègues, en revanche deux soldats américains, ont été tués lors de l'assaut.
En Syrie, le nouvel émissaire international a rencontré le président Bachar el-Assad. Lakhdar Brahimi a discuté avec le président syrien pour tenter de trouver une solution à la crise qui secoue ce pays depuis un an et demi. Conflit qui a fait plus de 27 000 morts selon l'opposition.
Alors maintenant, essayez de comprendre. Alain Chouet, les fonctions importantes que vous avez occupées au sein de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, vous étiez le chef du service de renseignement de sécurité. Ces fonctions ne disent pas le parcours qui a été le vôtre. Celui d'un lexicographe, celui d'un historien, celui d'un sémiologue. Or, pour comprendre pourquoi nous ne comprenons pas, peut-être qu'il faut commencer par dire les raisons pour lesquelles on ne peut pas comprendre. On n'utilise pas les mêmes choses ou les mêmes mots pour décrire les situations entre l'Orient et l'Occident ?
Je crois que déjà, on ne les utilise pas en Occident même, parce que je voudrais tout de suite faire une mise au point. Ce n'est pas parce que quelqu'un se rebelle contre un dictateur que ce quelqu'un est nécessairement un démocrate paraît de toutes les vertus. Ce n'est pas parce qu'on s'interroge sur les motivations, les objectifs et les moyens de ce quelqu'un qu'on est quelqu'un qui est proche de l'extrême droite. Et ce n'est pas parce qu'éventuellement on critique ses objectifs, ses méthodes et ses moyens qu'on est partisan du dictateur. Voilà. Or, trop souvent, chez nous-mêmes, il faut balayer devant notre porte, on a tendance à considérer les choses de façon manichéenne, avec les bons, les mauvais, le blanc, le noir, et il n'y a pas de gris. Alors effectivement, il faut se référer tout de même à la façon dont les gens pensent avant d'essayer de les comprendre. Or, ce n'est pas évident. Nous sommes effectivement entre l'Orient et l'Occident dans deux mondes différents qui utilisent des langues différentes. Je ne dis pas par là que les uns parlent l'arabe ou telle autre langue et nous parlons le français ou l'anglais. C'est que nous ne pensons pas de la même façon. Vieil exemple qui en général fait rire au Moyen-Orient, en français, on dit que quand on a raté son train, on dit « j'ai raté mon train », et en arabe, la contrepartie en arabe, c'est « mon train m'a raté ». Ce qui fait qu'effectivement, on n'a pas du tout la même approche des choses, des événements, des contrariétés qu'on peut avoir et des conflits qui peuvent exister. On ne les voit pas avec le même œil, on ne les comprend pas de la même façon. Et c'est, je crois, particulièrement le cas en Syrie, où il y a une situation extrêmement compliquée d'affrontements communautaires, d'affrontements minoritaires qui ne datent pas d'hier. Moi, quand je suis arrivé en Syrie la première fois en 1966, les bourgeois sunnites des grandes villes achetaient encore comme esclaves des petites filles et des petits garçons dans la montagne alaouite. Devant notaire, ils les achetaient par contrat pour en faire pour les filles des bonnes à tout faire et pour les garçons des manouvriers agricoles ou du bâtiment. Et ça reflétait la façon dont, depuis 1000 ans, la minorité alaouite était, contre laquelle pèse une fatwa appelant au génocide, une fatwa du jurisconsulte Ibn Taymiyyah au XIIIe siècle, qui avait appelé au génocide des Alaouites, qui ont vécu, de la minorité alaouite, qui a depuis vécu repliée dans sa montagne, opprimée et régulièrement massacrée par son environnement sunnite, qui a pris évidemment sa revanche en 1970 parce que les bourgeois sunnites de Syrie avaient commis l'erreur classique des parvenus, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas voulu envoyer leur fils à l'armée parce que c'était considéré comme n'étant pas un instrument de promotion sociale efficace et puis qu'on n'y gagnait pas sa vie, ce qui était vrai, on ne gagne pas sa vie dans l'armée, les anciens officiers comme Guillou le savent, et donc ils n'ont pas envoyé leur fils. Donc l'encadrement de l'armée a été assuré par les minorités, notamment les minorités les plus démunies, en particulier les alaouites, et quand on donne des fusils aux pauvres et aux opprimés, il ne faut pas s'étonner qu'ensuite ils se retournent contre les puissants et ceux qui les ont opprimés pendant 1000 ans.
Voilà. Mais Alain Chouet, le tableau. J'ai une grande incompréhension. Ceux qui nous gouvernent, ceux qui sont aujourd'hui en situation de prendre des décisions politiques importantes, vous écoutent-ils ? Vous demandent-ils comment on doit ou on peut comprendre une situation aussi complexe ? En réinscrivant le cours de l'histoire, les enjeux que des mots qu'on utilise pour décrire, est-ce qu'ils le font ? Ou sont-ils, comme nous les journalistes aujourd'hui au fond, dans l'instantanéité, dans la réponse immédiate à une situation au moment où elle se pose ?
Je pense qu'ils sont dans l'instantanéité. L'horizon politique en Occident, selon les pays, il est de 4 ou 5 ans. Hein. Après, le suivant se débrouillera avec les parents de la fille. Donc, on nous écoute. Je crois qu'il y a en France, et encore plus aux États-Unis, un certain nombre de think tanks qui discernent bien la réalité. En France, des institutions officielles, comme la Direction des Affaires Stratégiques, le CAP au ministère des Affaires étrangères, qui travaillent bien, qui font un excellent travail, qui le font dans la durée, mais la durée de l'analyse politique n'est pas celle des politiques. Alors vous dire, on nous entend, est-ce qu'on nous écoute? C'est un autre problème.
Mais quand vous parlez et que vous dites, par exemple, qu'en effet, Bachar el-Assad est un personnage abominable, mais qu'une fois Bachar el-Assad peut-être parti, ceux qui sont en train de le renverser feront peut-être pire que lui. Mmh. On vous dit que vous êtes un facho d'extrême droite, oui, que vous êtes une ancienne barbouze, que vous êtes un type abominable.
En général, oui. On me dit « Ah, on voit bien que tu es un homme des services, tu penses que c'était mieux avant ?» Non, je ne pense pas que c'était mieux avant. On connaît parfaitement. Le problème en Syrie, il n'est pas celui de l'Égypte, de la Tunisie ou de la Libye. C'est-à-dire que c'est un régime autoritaire, brutal, fermé, dictatorial, c'est vrai, mais ce n'est pas la dictature d'un homme seul ou d'une famille, comme c'était en Tunisie. Hein, Ben Ali et mari de la coiffeuse avec Madame Traboulsi et ses 200 cousins qui faisait de la prédation sur le pays. En Syrie, cette dictature de Bachar el-Assad, et avant lui, son père, Hafez al-Assad, c'est la dictature d'une communauté. Alors, vous pouvez toujours enlever Bachar el-Assad, il reste 2 millions d'Alaouites derrière qui n'ont strictement aucune envie de se retrouver dans un régime où les frères musulmans, l'islamisme politique, gouvernent et dominent. Et malheureusement pour eux, l'exemple qu'ils voient dans les autres printemps arabes, entre guillemets, les avertit que
le risque existe.
Le risque est, existe, c'est qu'il est évident, immédiat, et que la seule relève politique dans tous ces pays est constituée par les frères musulmans et le sunnitisme, l'islamisme politique, pour la bonne raison qu'on a éliminé depuis 40 ans, et souvent avec la bénédiction des Occidentaux, de l'URSS et de tout le monde, on a éliminé pendant 40 ans toutes les autres forces démocratiques. Oui. Donc elles n'existent plus. Ne reste que les islamistes. Hein. Ces pince-mi et pince-moi sont dans un bateau. Voilà.
Mais c'est d'ailleurs assez troublant de voir que pendant, en effet, 40 ans, si pas plus, les puissances occidentales ont entretenu des situations hautement ambiguës pour certaines, parce que les pouvoirs en place, on pouvait déjà largement s'interroger sur... On parlera, tenez, d'ailleurs, j'ai vu que vous réagissiez quand on a parlé de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ça existe, au fait Qu'est-ce que c'est que cet Observatoire syrien des droits de l'homme?
L'Observatoire syrien des droits de l'homme, bon, ça sonne bien aux oreilles occidentales, parce que droits de l'homme, etc., mais ça n'a rien à voir avec la respectable Ligue internationale des droits de l'homme. C'est une officine qui a été créée dans la banlieue de Londres, à Coventry, il y a quelques années, qui est animée par deux ou trois personnes qui sont, et dont le premier fondateur, M. Haitham El-Maleh, était un épicier, membre de l'association des frères musulmans. Voilà, alors tout ça, ça s'est installé à Londres sous la houlette bienveillante apparemment des services locaux, et c'est devenu, au moins en France, parce que dans d'autres pays c'est moins évident, c'est devenu la source unique des médias français, des médias occidentaux, en ce qui concerne la Syrie. Alors moi, je ne dis pas que ce que dit l'Observatoire syrien des droits de l'homme est faux. J'en sais rien, je ne suis pas sur place, mais eux non plus d'ailleurs. Mais ce qui m'étonne de la part des journalistes, c'est de n'avoir, sur une situation extrêmement compliquée, ambiguë et difficile, de n'avoir qu'une source unique. J'ai été amené dans ma vie à fréquenter pas mal de journalistes. En général, les professionnels essayaient de recouper leurs informations. Or là, que vous regardiez la télé ou que vous écoutiez la radio, c'est en permanence l'OSDH qui est la seule source de tous nos médias en Occident.
Jacques Berès, sur cet aspect-là de l'Observatoire des droits de l'homme, vous avez un commentaire ou une réflexion?
Non, pas vraiment. J'aurais pas aimé le faire maintenant. J'y reviendrai, si vous voulez bien, à propos des chiffres des pertes, simplement.
Très bien. Mais donc, cette partie-là de l'information qui nous parvient est en effet non recoupée. Donc c'est un problème, puisqu'il y a quand même, les mots comptent, il s'agit de l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
Oui.
Qui derrière?
Ben je vous dis, cinq personnes qui sont dans la mouvance frères musulmans.
C'est-à-dire des fondamentalistes.
Des fondamentalistes islamiques, oui.
Sur les frères musulmans, on va aussi beaucoup en parler parce qu'il y a au fond une conjonction entre le rôle de l'Arabie saoudite, qui donne l'argent, qui en donne beaucoup, et on verra à quoi sert cet argent, et les frères musulmans qui, eux, font toute l'organisation du système et aussi une forme de lobbying sur lequel il faut là qu'on s'arrête, avec un projet.
Bon, c'est pas un projet, c'est-à-dire que depuis la révolution islamique d'Iran, la famille royale saoudienne s'est sentie un peu gênée au niveau de la légitimité. Puisque, il faut quand même le rappeler, la famille Saoud a usurpé la garde des lieux saints en 1926 aux dépens des Hachémites, qui eux étaient, la légende au moins, l'histoire le dit, étaient les vrais descendants du prophète. Les Saoud ne le sont pas. Donc leur légitimité en islam est quand même un peu branlante. Donc ils ont essayé de... À partir du moment où ça a été remis en cause par la révolution islamique d'Iran, ils ont essayé de contrôler l'islam mondial par le seul moyen que les Saoudiens ont, puisqu'ils n'ont pas tellement de technologie d'influence et ils n'ont pas tellement le personnel pour le faire. Ils l'ont fait avec le seul moyen qu'ils ont, c'est-à-dire l'argent. Et cet argent, pour essayer de contrôler l'islam mondial à travers le Secours islamique, à travers la Ligue islamique mondiale, à travers l'Association mondiale de la jeunesse islamique, cet argent, ils l'ont distribué dans la nature sans trop avoir des moyens de contrôle de ce qui se faisait. Et naturellement, cet argent est normalement tombé dans la seule structure transnationale islamique existante, bien structurée depuis les années 50, qui est l'Association des Frères Musulmans, qui n'est pas du tout amie avec le régime saoudien. Pour l'instant, ce sont des ennemis complémentaires, l'Association des Frères Musulmans. Parce que je vais reprendre une image qui avait été, je crois, faite sur ce plateau la semaine dernière au sujet des renards végétariens. Mmh. On essaye là encore de nous faire croire qu'il existe des renards végétariens. L'Association des Frères Musulmans est une association fondamentaliste islamique. La plupart de ce qu'on appelle aujourd'hui les salafistes, qu'on nous décrit vaguement opposés aux frères musulmans, les 90% des cadres de la mouvance salafiste sont issus de l'Association des Frères Musulmans. Alors, il ne faut pas trop essayer de nous faire croire qu'il y a des gentils végétariens d'un côté et des méchants carnivores de l'autre. Il y a une espèce de jeu, un théâtre d'ombre entre les extrémistes et soi-disant les modérés. Voilà. Et c'est eux qui... Ils visent à la prise du pouvoir dans le monde arabe et surtout à recueillir les rentes. Et il vaut mieux voler un riche qu'un pauvre. Donc l'ennemi ultime des frères musulmans, c'est bien l'Arabie saoudite, qui en paye le prix d'ailleurs, par des attentats répétés depuis une vingtaine d'années.
Mais c'est dire déjà, quand je parlais de complexité tout à l'heure, c'est dire l'incroyable difficulté à appréhender les enjeux. Pardon de faire un plus simple, mais si j'ai bien compris, l'Arabie saoudite, régime ouadite radical, fondamentaliste, donne de l'argent utilisé par les frères musulmans. Et même s'ils ne s'aiment pas beaucoup, voilà que ces deux-là organisent un système dont le but est de faire en sorte que si Bachar el-Assad tombe, ce qui arrivera derrière servira les intérêts radicaux et fondamentaux de l'Arabie saoudite. C'est bien ça que vous dites.
Oui, mais je crois qu'il faut aller sur des schémas un peu plus...
C'est Xavier Guillou qui...
Un peu plus élaborés, parce que on va croire qu'on est sur des petits jeux extrêmement simples entre quelques dirigeants qui jouent au Monopoly ou aux échecs. Il faut voir que depuis 50 ans, on a, nous, projeté, enfin, je dirais même depuis plus, depuis un siècle, on a projeté sur cet Orient la volonté de gouverner, je dirais, cet espace un peu stratégique pour nos intérêts, notamment pétroliers et autres, avec la vision de l'État-nation. Or, cet espace-là ne fonctionne pas. C'est un espace qui est fondamentalement oriental dans son mode de comportement. Il ne fonctionne pas avec la problématique de l'État-nation. Et on a vu, au travers de ce qui s'est passé avec la Turquie, on a vu au travers des nationalismes arabes, on a vu au travers de l'Iran, etc., un certain nombre de pulsions se développer sur notamment la fin du XXe siècle et qui ont créé un grand vide, un grand désarroi, de grandes frustrations au sein de l'ensemble de cet Orient. Aujourd'hui, quand vous regardez les jeux, vous avez un espèce de réveil de l'ensemble de ces opérateurs. Vous avez un réveil turc. Et aujourd'hui, quand vous regardez Erdogan avec l'AKP, ils ont envie de revenir sur, je dirais, les vieilles stratégies de la sublime porte et d'imprimer sur l'ensemble du monde arabo-musulman un type de gouvernance. Vous avez l'Iran qui, aujourd'hui, démographiquement, a une empreinte sur l'ensemble de la région qui n'est plus marginale. L'Iran déborde de ses frontières. Enfin, aujourd'hui, vous regardez en Irak, l'Irak elle est gouvernée par des chiites. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que vous allez en Afghanistan, la vallée d'Herat est chiite. Donc c'est un tiers de l'Afghanistan. Vous allez par exemple sur le Koweït aujourd'hui, sur la province orientale de l'Arabie Saoudite, où il y a des manifs tous les jours, enfin de chiites, on n'en parle jamais. Enfin bon, Bahreïn. Ou à Bahreïn, hein, par exemple, vous avez quand même des émeutes qui sont réprimées par les sunnites. Et là, vous avez une emprise du monde chiite qui devient avec un énorme bassin démographique. Plus de 100 millions de personnes, hein, si vous regardez, qui commencent à s'affirmer. Et l'Iran rêve de redevenir la Perse de l'histoire de ce grand berceau civilisationnel qu'est le Proche-Orient. Mais vous avez aussi au nord les Russes, qui, avec notre nouveau tsar Vladimir, qui compte bien jouer un rôle sur l'Asie centrale, etc.
Et donc. Les Chinois qui sont probablement très attentifs aussi à ce qui se prépare, non ?
Les Chinois connaissent très très bien cette zone-là, c'est l'aboutissement de la route de la soie. Ils la connaissent depuis des milliers d'années, et donc ils sont en arrière-plan, et ils ont des jeux très.
Mais ils pensent au pétrole aussi, les Chinois, j'imagine.
Bien entendu, c'est leur problématique. Mais à l'intérieur de ce jeu-là, vous avez la problématique du monde sunnite. Et aujourd'hui, ce que nous vivons depuis 30-40 ans, c'est une crise du monde sunnite. Et comme nous avons, nous, inventé, projeté des modes de gouvernance qui ont éliminé du jeu tout ce qui pouvait être réflexion sur les questions, je dirais, de gouvernance, les questions philosophiques, les questions spirituelles, etc., que nous avons généré une grande pauvreté, je dirais, hein, sur le plan du mode de fonctionnement de ces pays-là, et bien aujourd'hui, vous avez un glissement de l'ensemble, des gouvernances de tous ces régimes vers ce qu'il y a de plus fondamentaliste, de ce qu'il y a de plus extrême au niveau, de la religiosité et de l'instrumentalisation de cette religiosité. Et comme en plus de ça, il y a des moyens, puisque la rente pétrolière et gazière est quand même colossale. Enfin, il faut voir les moyens que des pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar et autres ont dans leur soute, eh bien vous avez des choses assez explosives qui se promènent. Et comme vous avez Israël en plus de ça, au milieu de tout ça, et qu'il ne faut jamais oublier quand même que la constitution d'Israël, ça a été aussi quand même une invention de l'Occident, enfin de l'Europe entre autres. Donc on a un certain nombre d'ingrédients qui font qu'aujourd'hui, derrière ces frustrations, derrière ces réveils de puissance centrale ou périphérique et autres, et derrière cette crise du sunnisme, eh bien, on a des choses qui sont en train de s'entrechoquer et qui sont d'une certaine gravité, avec au milieu de tout ça, quand même, le pétrole et le gaz, qui permettent à nos sociétés de vivre et d'avoir le confort, la sécurité et la prospérité qu'on connaît. Voilà.
Vous décrivez les uns et les autres, tout de même, quelque chose qui met en place un risque de conflagration important. On va y revenir dans un instant. Ce que je voudrais avec toi, Jean-Pierrot, c'est de voir... Encore une fois, sur une question aussi difficile et sans tomber, que tu ne le fais d'ailleurs jamais, dans les travers du micro-trottoir, quand on interroge dans la rue des hommes et des femmes, encore une fois, sur une situation à ce point complexe, ce qu'on peut obtenir comme type de réponse. Tu commences par quelle question ?
Simplement une projection dans l'avenir, donc une forme de politique fiction réaliste. Politique fiction. Demain, les insurgés renversent Bachar el-Assad. Que se passe-t-il ?
C'est souhaiter avant tout qu'il ne se produise pas ce qui s'est produit ailleurs, avec le printemps de Jasmin ou autre, où c'est pas tout à fait ce qui était attendu.
Guerre civile ? Les islamistes au pouvoir ?
Donc là, je pense qu'il va y avoir, un peu comme en Égypte, une bataille entre communautés pour tenir le pouvoir.
Il verrait quelque chose se passer un peu comme avec la Libye, une sorte de conseil national de transition qui prendrait le pouvoir quelques temps jusqu'à organiser des élections avec les complications qui vont avec. Ensuite, la Syrie, étant donné que c'est un cas assez différent de la Libye, vu qu'on a l'impression que les politiciens ne veulent pas trop y toucher et sont un peu timides, parce que voilà, il y a l'Iran, la Russie, la Chine derrière, peut-être que l'issue sera différente.
On a un nouveau régime extrémiste en Syrie, puis on attend et on prie que ça se calme.
Prier, pourquoi prier ?
Un peu de spiritualité dans tout ça, il en faut quand même.
Ça ne pourra jamais être aussi pire que ce qu'ils sont en train de vivre. Au maximum, ils vont réaliser nos grandes peurs, c'est qu'un islamisme se mettra en place. On peut espérer que ce sera un islamisme un peu doux, comme peut-être on l'espérait pour l'Égypte.
Comment aider les Syriens ?
En parlant toujours d'eux. Ces quelques temps, par exemple, j'avais peur qu'on n'en parle plus. Alors qu'à une période, quand la guerre a monté en puissance, on en parlait comme d'une urgence de ne pas les laisser tomber. Et j'ai l'impression que l'habitude commence un peu à nous étouffer.
Je pense qu'il ne faut armer personne, parce que les armes se retrouvent dans la nature. On a le problème en Libye.
Non, je pense pas qu'il faut rentrer dans cette guerre, justement.
Les Occidentaux sont-ils naïfs, prudents ou cyniques vis-à-vis de la Syrie ?
Cynique, moi je dirais cynique. Pourquoi ? Parce que la géopolitique ne peut être que comme ça.
Donc je ne pense pas qu'ils sont naïfs. Prudent, je ne pense pas que ça soit bon adjectif non plus. Ce n'est pas prudent, c'est respectueux des règles internationales. On ne peut pas faire n'importe quoi.
Sans nul doute, naïf et un petit peu cynique aussi, oui.
Prudent. Cette prudence, par contre, m'étonne un petit peu. J'ai toujours peur que cette prudence s'inscrit dans la peur d'un islamisme radical et que c'est peut-être pas ça qui nous attendrait dans tous les printemps arabes qu'on a connus, et y compris en Syrie.
Alors, printemps arabe, est-ce que la formule même est encore pertinente aujourd'hui, Xavier Guillou? Parce que ce que vous décrivez, ces tentations de refaire l'Empire ottoman, de refaire l'Empire perse, de contrôler les accès au pétrole, est-ce que toutes ces tentations-là sont compatibles avec notre définition de la démocratie? Et est-ce que même, par exemple, pour parler de l'Arabie saoudite ou du Qatar et des frères musulmans, tout cela veulent-ils quelque chose qui s'approche ou qui ressemble à la démocratie?
Moi, je formulerais peut-être la question différemment. C'est-à-dire que je vous poserai la question suivante, c'est comment Erdogan, comment Vladimir Poutine, comment Khamenei, comment la gouvernance chinoise qui va se mettre en place là voient leur futur dans les 10, 20, 30 ans qui viennent. Et quand vous discutez avec ces états-majors-là, ils ont une vision de leur futur. Ils ont une vision de leur futur. Nous, pour l'instant, nous sommes sur la gestion d'acquis et la consolidation, je dirais, de protocoles que nous avons signés en 1920 et re-signés en 1920 avec les accords Sykes-Picot, hein, français et anglais, et puis en 1946 avec l'accord signé sur le Quincy par Roosevelt avec les Saouds, et qui nous
Quincy,
permet...
Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le nom du bateau sur lequel l'accord a été signé, et qui
sur lequel on a emmené les Saouds, sur lequel on a emmené les Saouds, la famille Saoud, pour signer un papier...
Qui liait donc les États-Unis et l'Arabie Saoudite sur la question du pétrole pour...
Stéphane Pauli,
oui. Qui liait les États-Unis et la famille saoudienne,
pas le pays. Pas l'État. Voilà. Vous avez raison. Voilà. C'est très important de dire que ce n'est pas un État, mais une famille.
La protection militaire des États-Unis à la famille saoud, en échange du monopole sur le pétrole saoudien à travers l'Aramco, et surtout en échange du paiement en dollars.
Dollars, voilà.
Ce qui permet
le pétrole, ce qui permet aux États-Unis
de faire tourner la planche à billets en permanence.
Sauf que pour pas grand-chose, en exportant leur déficit intérieur monumental.
Voilà. Sauf que ces accords, ils sont obsolètes maintenant depuis 5 ans.
Ils ont été renouvelés
en 2005.
En 2065.
Voilà. Aujourd'hui, quand même, des problématiques de fond qui sont celles du traitement de l'énergie fossile sur la zone. Et on s'aperçoit que il faut qu'on remonte une partie de la sécurité énergétique qui était sur la péninsule arabique. Il faut qu'on la remonte vers le nord. Et ça fait depuis 10-15 ans que tous les pipeliners, si vous voulez, travaillent, comme toutes les compagnies pétrolières, etc., sur les champs qui sont sur l'Asie centrale, qui sont sur le nord de l'Irak, sur l'Iran, sur le Caucase, etc. Et y compris même sur la Méditerranée orientale, puisqu'on a découvert un champ extrêmement important au large de la Syrie, de Chypre, du Liban et d'Israël. Donc il y a des convoitises quand même assez considérables sur la zone actuellement. Donc on a cette espèce de remontée du centre de gravité de la sécurité énergétique sur cette zone-là, et on voit bien que la Syrie, comme le nord de l'Irak et l'Iran, redeviennent extrêmement stratégiques pour tout le monde. Enfin, je veux dire, et notamment pour les Européens, pour prendre notre cas, puisque si jamais on continue à aller dans un abandon du nucléaire suite à Fukushima, qu'on a des problématiques, je dirais, d'approvisionnement énergétique, on sera de plus en plus dépendant, si vous voulez, de cette voie de passage sur le plan stratégique. Y compris même les Chinois, qui aujourd'hui, pour pouvoir... sortir de la pression qui jusqu'à présent était très forte sur Hormuz et sur le Golfe, commence à négocier très sérieusement avec les Russes et avec d'autres pour faire passer une partie de la production par le Nord, la Sibérie, et être approvisionné pour leurs propres besoins. Donc on est sur des grands jeux aujourd'hui où nous ne gérons que des acquis et on consolide, je dirais, des positions. Donc on est plutôt en logique défensive. Mais quand vous regardez le Turc, le Russe, l'Iranien, le Chinois, etc., ils sont sur d'autres jeux. Sont sur les jeux des 20-30 ans qui viennent. Voilà.
Mais pardonnez encore une fois mes questions de candide, parce que j'ai vraiment envie de comprendre des choses que je ne comprends pas. Est-ce qu'on peut parler d'une forme de schizophrénie américaine? Je reviens à l'affaire du Quincy. Les Américains, avec la famille Saoud, signent un accord pour 60 ans sur le pétrole.
Ouais.
Mais enfin, ils sont bien renseignés. Ils ont l'équivalent d'un Alain Chouet, les Américains, en matière de renseignement.
J'espère qu'ils en ont plusieurs.
Ils en ont probablement plusieurs. Donc, ils savent parfaitement qu'ils ont passé un pacte avec un système politique qui n'a rien à voir avec le leur et qui les met dans une position de vrille insoutenable à long terme.
C'est parfaitement soutenable. Ils le soutiennent depuis 50 ans. Pour les États-Unis, quelles que soient alors là, les tendances politiques à l'intérieur de l'appareil politique américain, pour les États-Unis, il est préférable d'avoir des régimes conservateurs, libéraux, au sens européen du terme, stable, qui remplace les solidarités nationales par du compassionnel concédé, hein, ce qui évite d'avoir la montée en puissance de tout ce qui est exécrable aux yeux de l'ensemble des Américains, c'est-à-dire des syndicats, des mouvements populaires, de tous ces trucs rouges qui ne peuvent, in fine, que mettre en cause l'hyperpuissance. Donc, les Américains ont toujours, depuis 50 ans, favorisé partout, mais pas seulement au Moyen-Orient, des régimes néoconservateurs, ouverts sur l'économie libérale mondialisée, etc.
Ou dictatoriaux,
comme la nécessité. Hein, voilà, c'est un régime qui est constant, qui n'a pas été remis en cause par les attentats du 11 septembre, puisqu'on voit bien que les États-Unis continuent d'accorder leur soutien à ces régimes néolibéraux, conservateurs, voire réactionnaires, parce que ça convient parfaitement à leur système de fonctionnement.
Mais alors, quand on voit... Voilà.
Et la religiosité n'est pas un problème.
Bien sûr.
Non, parce que au contraire. Il faut quand même voir une chose, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui soutiennent le plus, par exemple, l'action des frères musulmans à partir de la Turquie, avec le Conseil national syrien et l'armée syrienne de libération, là, sont quand même les Américains. Enfin, je veux dire, et ça ne leur a jamais posé de problème. Quand, par exemple, on les avait avertis sur l'Afghanistan, que la liaison avec les Moudjahidines, ça allait au moment des Soviétiques, hein, de combat contre les Soviétiques, bon, ça allait, mais il fallait faire attention. Eux, pour eux, ça ne posait aucun problème. Enfin, je veux dire, la question religieuse aux États-Unis ne pose pas de difficultés dans l'exercice de...
Mais alors, au nom de cette stabilité que vous invoquez les uns et les autres pour le fonctionnement du système géopolitique dans la région, le peu de réaction du monde occidental aujourd'hui sur la question syrienne, comment on doit le comprendre ? Est-ce qu'au fond, certains souhaiteraient même qu'un Bachar el-Assad reste en place parce qu'au moins on aurait la stabilité que vous évoquez les uns et les autres ? Est-ce que ça peut aller jusque-là ?
Ben, il faut quand même rappeler que Bachar el-Assad
a
été le meilleur ennemi d'Israël et que depuis que le Golan est occupé, c'est une des régions les plus sûres du monde qui n'a pas eu un coup de feu tiré sur le Golan pendant 25 ans.
Oui, ça, je crois que c'est extrêmement important. Je pense que si y a un acteur sur le plan régional qui a largement la capacité de faire bouger le jeu, c'est Israël. Si on avait vraiment envie que Bachar el-Assad... ne puisse pas faire voler ses avions et circuler ses chars.
Il y a longtemps que ce serait fait.
En 48 heures, c'est fait. D'accord. Donc là, on se trouve devant quelque chose c'est toute l'ambiguïté de cet Orient. Enfin, je veux dire, pour Israël...
Pas que de l'Orient, la nôtre aussi, hein, pardon.
Non, mais je parle de la situation sur place là-bas, parce que nous, on raisonne avec notre rationalité occidentale, donc... Comme disait Alain, il y a les bons, les méchants, etc. Donc tout est dans des cases. Mais vous prenez la problématique d'Israël aujourd'hui. Israël a instrumentalisé la menace iranienne, qui est une menace globale, suprême, avec le nucléaire, etc. Et il se retrouve là avec le printemps arabe dans les pattes. Tout le dispositif est calé en termes de communication et de posture géopolitique sur l'Iran. Et vous vous retrouvez avec les principaux adversaires d'hier d'Israël qui lui permettaient de pouvoir bien asseoir sa géographie de la menace, qui sont menacés. Hein, l'Égypte avec les frères musulmans et les accords de Camp David qui tombent. Bachar el-Assad qui est l'adversaire idéal. Et il se retrouve... à monter en puissance en termes de communication sur l'Iran et avoir un chapelet autour d'eux de menaces islamiques qui peut remettre en cause la stabilité du Liban, la stabilité de la Syrie, mais qui peut faire tomber la Jordanie, beaucoup plus grave. Personne n'en parle aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus grave. Parce que les implications derrière sur Israël, en intrusif à l'intérieur d'Israël, seraient colossaux. Voilà. Et donc, ils se retrouvent aujourd'hui avec cette géographie qui est en train de se percuter sur le plan de l'adversité et des menaces. Et vous avez Netanyahou qui dit on va attaquer l'Iran, et puis vous avez les autres qui disent mais attendez, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que si on a un chapelet d'islamistes autour de nous, c'est la survivance d'Israël qui est elle-même remise en cause, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur.
Voilà. Jacques Beres, là-dessus. Oui.
Pour peut-être en finir avec Israël, qui est effectivement important, convient peut-être de rappeler que le Sinaï actuellement est réoccupé militairement, contrairement à tous les accords internationaux signés.
Oui, tout à fait.
Oui, mais ce que vous décrivez, encore une fois, là, est assez préoccupant, parce que quelle est la porte de sortie? Quelle est aujourd'hui la porte de sortie d'une situation comme celle-là?
Moi, d'abord, je pense que...
Pardon d'insister aussi, mais je pense qu'il faut le prendre en compte. Dans un contexte économique mondial qui est aussi préoccupant. C'est-à-dire qu'on est dans l'instabilité dans tous les champs du jeu.
Oui,
on peut parler de jeu, en l'occurrence.
Oui, on a tout ce qui peut être facteur aggravant pour pouvoir rentrer dans un mode de résolution de cette crise. D'abord, on est en 2012... On n'a jamais eu autant d'élections sur le plan de la planète.
Vous regardez
les deux plus gros protagonistes de l'affaire, l'américain et le chinois. Le chinois et l'américain sont actuellement en période électorale ou de changement de gouvernance. Mais vous avez, au niveau européen,
on sort
d'un certain nombre de processus électoraux, dont nous, mais l'Allemagne rentre en élection. Et avec, en plus ça, l'Allemagne est le garant, si vous voulez, de notre stabilité financière, économique. Sans cette stabilité-là, au niveau européen, comment peut-on rentrer dans ce type de conflit ou de résolution de conflit, sachant qu'aujourd'hui, vous avez plus de populations qui sont dans les rues pour les problèmes de plans d'austérité que pour la Syrie, chez nous. Regardez ce qui s'est passé en Espagne hier, etc. Donc, et puis vous avez l'affaire du peak oil qui entre en ligne de compte au niveau énergétique. On est en plein dedans, sur les problématiques d'offre-demande au niveau mondial, avec une pression des pays émergents, dont la Chine aujourd'hui, qui tendent les marchés énergétiques comme on a rarement eu. Donc on est dans une situation où il faut sortir de l'hystérie diplomatique qu'on a pu connaître, ou médiatique qu'on a pu connaître, notamment au lendemain de la Libye. Il faut éviter de reproduire, enfin moi ma conviction profonde, il faut éviter de rentrer dans les confusions des genres qu'on a connues avec le Kosovo et avec la Libye, notamment sur l'histoire de devoir de protéger, sur la façon d'intervenir sur des zones souveraines de pays qui sont membres de l'ONU, etc. Enfin bon, je crois qu'il faut arrêter de dénaturer le droit international. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut...
Mais la question au fond, c'est qu'est-ce qu'on peut faire
ou
qu'est-ce qu'on doit faire?
Aujourd'hui, il faut calmer le jeu. Il faut calmer le jeu et donc arrêter, au niveau des diplomaties, de faire des déclarations à l'emporte-pièce en disant « bon, ben, il faut que Bachar al-Assad parte, etc. etc. » Enfin bon, ça ne sert à rien et ça ne règle pas les problèmes. Je pense que d'abord, il y a au niveau syrien, il faut mettre tout le monde autour de la table et pas uniquement privilégier le Conseil national syrien. Il y a plein d'autres composantes qui ont le droit de parler, qui ont le droit de se mettre autour de la table. Dans ces composantes, il y a des minorités. Bon, il y a les minorités d'Orient qu'on connaît, minorités chrétiennes, etc. Mais il y a les minorités kurdes. Il y a les autres minorités chiites et autres qui ne sont pas forcément alawites, les ismaéliens. Il faut que tout le monde soit autour de la table. S'il n'y a pas ce prérequis-là, ça ne fonctionnera pas. La deuxième chose, c'est qu'il faut que les acteurs régionaux soient eux aussi autour d'une table. C'est ce qu'a commencé à faire Brahimi. Je trouve que c'est assez intéressant de voir la provocation qui a été faite au moment du voyage du pape et des réunions que Brahimi vient d'avoir avec Bachar al-Assad, où il a réussi à mettre en place un tour de table quadripartite dans lequel on a réussi enfin à faire rentrer l'Iran. Voilà. Donc la Turquie, l'Iran, l'Arabie saoudite et puis la Russie.
Voilà. Kofi Annan s'est cassé les dents sur le fait que personne ne voulait que l'Iran soit à la table des négociations.
Voilà.
Alors, on ne peut pas raisonnablement faire comme ça a été fait, par exemple, par le président Obama, c'est-à-dire le même jour commettre Kofi Annan pour aller négocier et de l'autre main signer un secret act ordonnant aux services américains d'armer et de conseiller
et
les rebelles. La diplomatie, quand même, ça consiste à ouvrir les portes ou au moins à les maintenir entrouvertes, pas à les claquer au nez de tout le monde. Et on ne peut pas raisonnablement proposer une négociation en disant oui, mais à condition qu'une des deux parties ne soit pas à la table. Or, c'est ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Autre chose qui n'a pas été fait, calmer le jeu, puisque les Saoudiens et les Qataris sont supposément nos alliés. et sont les puissances wahhabites héritières d'Ibn Taymiyyah qui a délivré la fatwa contre les alaouites, on aurait peut-être pu leur demander de déclarer cette fatwa, au départ, de déclarer cette fatwa obsolète, nulle, non avenue, finie, terminée. Ça aurait au moins pu contribuer à calmer le jeu et laisser un certain nombre d'alaouites de Syrie pouvoir se décrocher de Bachar el-Assad, du régime actuel, en ayant la garantie internationale d'une protection sur les minorités, ce que je crois on est en train aujourd'hui de demander, nous les Français, mais par des biais un peu compliqués, assurer aux minorités du coin, comme aux pays menacés du coin, tous ceux qui vivent dans cet océan sunnite qui est perçu comme dangereux, leur donner des garanties internationales, puisqu'on en est à donner des garanties internationales à tout le monde. Voilà.
Donc il faut calmer le jeu, il faut mettre tout le monde autour de la table. Et alors, il faut être conscient d'une chose, c'est que donc on est rentré, là, non pas dans un temps contracté, mais dans un temps long. Je pense que ce que le ministre de la Défense vient de dire là, à Beyrouth, là, puisqu'il est sur place en ce moment, il a visité le sud du Liban, le camp médical qu'on a monté en Jordanie, etc. Il a précisé que là, on était sorti de, je dirais, des turbulences un peu médiatiques et qu'on rentrait dans un temps long.
Mais on est, à vous écouter, on est de tout temps dans le temps long. Ce que nous disait Alain Chouet tout à l'heure, comprendre... Ce à quoi on en arrive aujourd'hui, il faut faire référence à l'histoire. Et donc, on est dans le temps long tout le temps dans cette affaire-là.
Oui, sauf qu'on a à gérer des pics médiatiques et des pics politiques assez, ce que j'appelle hystériques. Et que maintenant, le problème, c'est d'arriver à conjuguer à la fois ces réunions avec des acteurs qui sont essentiels autour de la table, y compris même les grands. Quand on aura passé les élections américaines et autres, il va falloir qu'à un moment ou à un autre, les grands du Conseil de sécurité se retrouvent et redéfinissent peut-être des règles du jeu ou conviennent d'autre chose que simplement une gestion du grand Moyen-Orient par l'Américain. Mais il va falloir aussi gérer, dans ce temps long, la protection des populations. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même penser qu'il y a des quelques milliers, si vous voulez, de personnes qui sont touchées par les événements, mais des centaines de milliers de personnes qui bougent et qui vont se réfugier au Liban, en Jordanie, avec une instabilité qui va s'installer durablement.
On va aller voir sur le terrain avec Jacques Berès qui en revient, comment en effet les hommes, les femmes, les enfants réagissent à tout ce qui se passe là-bas. Mais sur la complexité aussi, sur la perception que nous en avons, et la question que je posais en commençant d'ailleurs, les visages cachés, Jean Pierrot, comment réagit-on quand tu poses la question des visages cachés ?
Là, j'ai posé la question de la religion. Bon, vous allez entendre ce que ça donne. Et puis, j'ai continué à essayer de faire la simulation de se projeter. J'ai demandé aux gens de se projeter eux-mêmes, de se mettre à la place.
Qui tire les ficelles de ce conflit ?
Même en imaginant, je ne suis pas capable de répondre. Non, j'aurais des bêtises.
Quelle part prend la religion dans ce conflit ?
Dans l'exemple de la Tunisie et de la Libye, on a vu, ou de l'Égypte même, on a vu les intérêts religieux survenir après la prise du pouvoir par les insurgés. Et là, pour le moment, j'ai pas trop l'impression qu'il y a des enjeux religieux.
On se rend compte que la religion, aujourd'hui, a une place, on lui donne une place en tout cas, qui est devenue très importante et qui brouille un peu les cartes.
La religion prend une grande part. Elle avance sûrement cachée. Pour le moment, on ne le voit pas.
Vu de notre fenêtre, on voit un régime brutal et une aspiration à la démocratie plus que des dimensions religieuses.
Elle en prendra de plus en plus si on ne les aide pas. À mon avis, ça risque de se radicaliser alors qu'on pourrait avoir une démocratie islamique. On peut toujours rêver. En tout cas, je pense qu'en durcissant la guerre, on aura affaire à un islam de plus en plus dur.
Vous êtes syrien, athée et insurgé. Quel avenir pour vous à court, moyen et long terme?
Très court. Vu la tournure que prennent les choses, soit les insurgés réussissent véritablement et ont la capacité à construire quelque chose, ou alors malheureusement ça se passe mal, et dans quel cas, je pense que malheureusement ce sera très dur pour ces gens-là.
Je n'ai pas beaucoup d'espoir, je le sens pas trop. Mais si on n'y croit pas, on se bat pas. D'un point de vue objectif, j'en ai pas beaucoup. D'un point de vue mystique et peut-être d'une croyance dans un avenir meilleur, oui, j'en ai beaucoup.
Comme je crois que je suis pas très courageux à court terme, mon avenir, je le verrai en dehors des frontières. Je pense pas que j'aurai le courage de supporter cette violence au quotidien. Je crois que la lâcheté prendrait le dessus, malheureusement.
À court terme, c'est certainement très dangereux, mais en même temps très palpitant, parce que je fais partie de l'histoire qui va s'achever. Oui, Bachar el-Assad, c'est la fin.
Jacques Berès, faut-il rappeler que vous êtes chirurgien et que vous êtes le cofondateur de Médecins Sans Frontières, puis de Médecins du Monde. Je disais tout à l'heure, en commençant l'émission, que vous avez opéré dans les pires conditions, à peu près, sur tous les théâtres de guerre. Là, vous étiez en Syrie récemment. Cette question du courage, c'est jamais une petite question. Et vous avez vu des hommes, des femmes, des enfants incroyablement courageux.
Oui, très courageux, et c'est la première raison qui m'a porté à m'impliquer dans leur lutte révolutionnaire. C'est cette admiration devant ce peuple incroyable qui, pendant plusieurs semaines au début, parce qu'il faut quand même revenir au début, maintenant on est dans une guerre et on parle de la guerre. Mais moi je voudrais revenir au tout début où il y avait des gens qui manifestaient pacifiquement sans armes contre des fous furieux qui leur tiraient dessus à balles réelles. Moi, j'ai fait un certain nombre de manifestations dans ma vie, mais on ne me tirait pas dessus. C'était matraque et gaz lacrymogène. Et voilà, je ne pense pas que je descende dans la rue si on me dit qu'en face, il y a des milices, des chabillas qui vont vous tirer dessus. Voilà, ça c'est... Une petite observation, je vais prendre les choses à l'envers, si vous voulez bien.
Bien sûr,
on va les tricoter dans l'autre sens. Petite observation à propos de la nécessité du temps long. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez ? La guerre sunnite-chiite, c'est quand même la plus longue guerre de l'histoire. Elle fait plus de 13 siècles. Voilà. Alors moi, en tant que simple chirurgien, j'ai appris beaucoup de choses dans cette émission. Merci, messieurs. Et j'étais très content. Je suis quand même étonné que un certain nombre de petites choses. Une chose qui n'est pas petite, c'est qu'on a très peu parlé de l'arc chiite. Or, l'arc chiite, c'est absolument fondamental dans la région et pour comprendre ce qui se passe actuellement. M. Guillou a parlé du rôle des chiites dans différents pays, en Irak, bon, où ils ont pris démographiquement le pouvoir, bien, pas démocratiquement, non. J'ai dit démographiquement.
En effet.
Oui, il a raison, mais l'arc chiite, c'est quand même une réalité très importante, parce que Iran, avec Syrie comme allié, et les ramifications de part et d'autre d'Israël, Hezbollah, Hamas. Hein, ça, c'est fondamental. Les armes passent par là. Or, moi, j'ai vu, effectivement, des obus, des douilles d'obus, made en Iran. Hein ? J'ai pas vu beaucoup d'armes, parce que je crois qu'il y a une grande part de bluff dans les armes qataries et d'Arabie Saoudite. Il y en a sûrement. Il y en a peut-être qui viennent de pays plus occidentaux que ça et qui sont remaquillés qataris. Mais j'en vois très peu, quand même. Le premier RPG que j'avais vu, c'était à Homs.
RPG, alors, pour ceux qui ne sauraient pas.
Rocket Propelling Gun. Voilà. Il était homemade, ce RPG.
Lance-roquette, oui.
Il était homemade, il était fait sur une table de cuisine avec le chaudronnier du coin et j'avais vraiment très peur, je ne m'en serais pas servi, moi. Je voudrais reprendre une chose. On parle de Bachar et des islamistes, du danger islamiste, c'est un peu un fantasme réel. Maintenant, ce n'est plus un fantasme. J'ai été, je crois, le premier à reconnaître et tout le monde dit, docteur Berès, il dit maintenant qu'il soigne des djihadistes, etc. Bon, ce qui est vrai, mais ce qui peut s'expliquer, si on me laisse deux minutes pour l'expliquer. Mais quand je revenais de Homs en février et qu'on me posait la même question, je réagissais assez violemment en disant « mais c'est un fantasme occidental, il n'y a pas de salafistes pour l'instant dans les rangs de la Révolution ». Toutes les victimes que j'avais, les morts et les blessés, c'était des gens du terroir, c'était des gens connus, c'était toujours le frère, le cousin, l'oncle de quelqu'un de connu, du personnel de l'hôpital, etc. Il n'y avait ni étrangers, ni fondamentalistes, c'était des gens qui avaient pris les armes. Maintenant, les choses sont très différentes, effectivement, parce que ce qu'on appelle l'armée syrienne libre, qui est assez compliqué à comprendre, mais ça peut être intéressant, il y a, à mon avis, trois composants. Il y a effectivement le noyau original des paysans, des avocats, des plombiers qui ont pris les armes pour se défendre, pour défendre leur peuple. Après ces semaines et ces mois de manifestations massacrées, il faut quand même revenir là-dessus. Le deuxième, c'est les défecteurs de l'armée régulière de Bachar, des simples soldats aux généraux qui sont venus rejoindre la révolution. Et maintenant, il y a effectivement ce troisième facteur, des combattants étrangers, des salafistes et des djihadistes qui ne sont pas tout à fait la même chose, mais qui sont quand même très liés. Sur Bachar, je voudrais dire comme une chose très fondamentale, c'est que quel que soit le risque des islamistes, et Dieu sait que je ne suis pas pour les islamistes, et que de par mes origines personnelles, et j'ai toute raison d'avoir les plus grandes réserves et les plus grandes craintes, et j'ai vu trop de régimes qui tournaient à l'islamisme, y compris en Tchétchénie, où j'ai eu le malheur de voir arriver ça après mes trois séjours différents sur les deux guerres de Tchétchénie. Mais une chose quand même fondamentale, c'est qu'il va être très, très, très difficile de faire pire que Bachar. Bachar est quand même Après Charles Taylor, qui était une toute petite maquette et qui n'avait pas de motif religieux, Bachar est quand même...
Qui était un fou furieux, en plus, Charles Taylor.
Oui, on peut se demander si Bachar... Bon, enfin,
oui, si en effet, la question est pertinente.
Il est plus pervers, et ça se voit moins, mais enfin, c'est aussi un grand assassin et quelqu'un de criminel absolument incroyable, je veux dire. Argué de la lutte contre le terrorisme pour massacrer des médecins syriens, des pharmaciens syriens, détruire les pharmacies, ce qui veut dire que même les vieilles personnes qui avaient besoin de médicaments pour leur cœur fatigué ou leur rein fatigué ne pourront plus les trouver. Et ça, j'en ai vu des dizaines de pharmacies détruites, brûlées, avec plus un comprimé d'aspirine disponible. C'est quand même une attaque, non pas contre des bandes terroristes, comme il le dit, mais contre une population civile. Actuellement, à Alep, et je crois que j'ai été le premier à observer, mais je n'avais pas compris ce qui se passait, tellement ça ne me venait pas à l'esprit. Il y a eu, après le rapport de Human Rights Watch, sur l'attaque délibérée des queues devant les boulangeries par des hélicoptères de combat qui mitraillent. J'ai même eu le boulanger mort, parce qu'il avait eu la mauvaise idée de sortir de son fournil pour voir ce qui se passait, et la rafale suivante a été pour lui. Et c'était une scène très troublante, parce que c'était un monsieur d'un certain âge, tout blanc, tout nu, tout blanc, avec les trous rouges, c'était très spectaculaire.
Le blanc, c'était la farine de son...
La farine de son pain. Je veux dire, il va être quand même très difficile. Vraiment, la théocratie islamiste, c'est redoutable, je suis bien d'accord, mais faire pire que Bachar, ça va être très difficile. Alors, sur l'après-Bachar, je voudrais dire ceci, que jusqu'ici... Lorsque des districts de ville, et je l'ai observé à Homs et encore plus à Alep, qui est la plus grande ville du pays, quand même, il faut rappeler, c'est plus grand que Paris, Alep, des quartiers entiers ont été libérés. La free zone dans Alep, elle s'étend quand même sur quelques kilomètres. Il n'y a pas eu de chasse à l'homme et de traque des Alaouites en tant que telle. Aucune. Hein. Personne n'a témoigné de ça. Mais ça va peut-être arriver, car maintenant, on commence à entendre que c'est une répression Alaouite, ce qu'on ne disait pas avant, on disait c'est le régime assassin de Bachar. Oui. Mais maintenant, des gens disent, et le personnel de l'hôpital où je travaillais, des gens disent ceci est une répression Alaouite. Alors on peut revenir effectivement sur ce que c'est que les Alaouites, sur la fatwa de Ibn Tamayen. 13e siècle, effectivement, et il est revendiqué comme le fondateur du mouvement salafiste. Il faut rappeler que salafiste, ça veut dire la religion des
salafs, ancêtres.
Les ancêtres,
les ancêtres, compagnons.
Oui, les ancêtres, les compagnons. Il faut dire aussi que lors du mandat français vers les années 1920, il avait été envisagé la création d'un État alaouite.
Il a été créé pendant quelques mois.
Oui, enfin, il avait son
drapeau.
Il a été, oui. Enfin, il n'a pas eu d'existence autonome. Enfin, il avait été envisagé et donc mis... Voilà. Et que c'est possiblement ce que Bachar essaye de faire maintenant avec le regroupement des armes chimiques, d'avoir ce morceau de côte entre l'attaquer comme port important jusqu'à la base russe de Tartous, etc.
Mais moi, ce que je retiens à vous écouter tous les trois, c'est que dans cet affrontement, car c'en est un, 13 siècles, sunnite chiite, on est à un point aujourd'hui, compte tenu de beaucoup de paramètres qui sont en même temps économiques, la question du pétrole, de l'énergie, du contrôle d'une région, de la volonté des uns et des autres de reconstruire des empires tels qu'ils pouvaient exister à la fin du 19e. On est confronté à une radicalisation de la situation qui nous menace collectivement tous. C'est-à-dire qu'on est à un point très chaud, là.
Oui, non. Je dirais là-dessus, il faut... À la fois, c'est un petit peu comme quand le général de Gaulle arrivait dans ce Levant compliqué et qui disait qu'il faut venir avec quelques idées simples. Je dirais, vous savez, tout à l'heure, il y a un de vos auditeurs qui a dit je ne comprends pas trop ce qui se passe. Ben pour moi, cette région-là, c'est un petit peu comme un plat de spaghetti, si vous voulez. Hein. Dès que vous commencez à prendre une des nouilles, vous avez tout plat qui bouge. D'accord. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir l'intelligence de la compréhension et je dirais, la dégustation de ce plat. Et puis, si vous allez sur cette région-là, en termes de traitement et de résolution des crises, vous ne pouvez pas l'aborder comme au restaurant chez nous. Si vous avez une entrée, un plat de résistance et un dessert, c'est linéaire. Là, vous imaginez la résolution de cette affaire-là avec un déjeuner libanais, voyez, où vous avez une trentaine de plats et il faut prendre dans chaque plat pour arriver... Et chacun prend comme il le veut. Chacun prend comme il le veut et selon sa façon d'appréhender.
Pas de protocole.
Il n'y a pas de protocole. Il n'y a pas de protocole. Et vous n'avez pas de hiérarchisation. Et donc, je crois qu'il faut être d'une très grande humilité et par rapport à cette région-là. Et je ne suis pas forcément sûr qu'on ira vers des affrontements de type apocalyptique. On peut revenir vers des formes de guerre froide, on peut revenir vers des formes d'affrontements régionaux comme on a connu dans l'histoire, qui peuvent être violents. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut aujourd'hui remettre les gens autour de la table, calmer le jeu et surtout remettre du contenu. Parce qu'aujourd'hui, on a parlé, par exemple, de la confrontation entre le chiisme et le sunnisme, mais aussi entre le monde de l'islam et la chrétienté, etc. Mais pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de contenu, parce qu'on est devenu pauvre dans ce domaine-là, sur le plan des débats et de la relation entre les populations et les peuples.
Juste un mot, M. Berès, parce qu'il faut qu'on rentre dans l'antenne.
Je vais demander à reparler de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. À propos du chiffre des morts, pour dire que ce chiffre est vraiment très en dessous de la réalité. Parce que l'Observatoire syrien des droits de l'homme, sur ce point précis, fait trop bien son travail. Ils veulent tellement qu'aucun des morts qu'ils décrivent ne puisse être contesté qu'ils en oublient, mais des floppés. Oui. À Homs, ce n'était pas le cas, mais tous les morts que j'ai eus à Alep, je suis pratiquement certain qu'aucun n'est remonté à Londres.
Messieurs, merci encore une fois. Pardon d'avance d'ailleurs à Philippe Habitboul pour le retard que nous avons pris, mais c'est important de vous entendre. Le seul souhait que je puisse formuler maintenant, c'est que j'espère que ceux qui nous gouvernent vous écoutent et vous demandent vos analyses, parce que je pense qu'elles sont impérativement nécessaires pour la compréhension des grandes questions qui se posent à nous. Dans un instant, le journal de Philippe Habitboul avec au moins une minute de retard, et je m'en excuse vraiment.
13h31 sur France Inter, vous retrouvez tout de suite Stéphane Paoli pour 3D, le journal, la suite.
Merci Brigitte Forest, et avec une question, que s'est-il passé à la conférence, s'est-il passé vraiment quelque chose à la conférence environnementale? C'est de ça dont nous allons parler.
3D. Le journal de Stéphane Paoli.
Et nous allons en parler avec Karine Gavant. Bonjour madame.
Bonjour.
Merci de votre présence. Vous êtes chargée des questions politiques à Greenpeace France. Vous avez participé à cette conférence environnementale et plus précisément même à la table ronde qui portait sur la fiscalité environnementale. À vos côtés, Mario Bettati. Bonjour Mario Bettati.
Bonjour.
Merci de votre présence. Vous êtes professeur agrégé de droit international. Vous êtes l'ancien conseiller juridique du ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner. Et vous aviez initié et promu avec lui le droit d'ingérence. On en a beaucoup parlé de la question de l'ingérence dans la première heure de cette émission. Le droit d'ingérence humanitaire et écologique. C'est drôle d'ailleurs. On parlait moins du droit d'ingérence écologique que du droit d'ingérence humanitaire à l'époque où c'était il y a 15 ans de ça déjà, hein, cette question de l'ingérence.
Oui, je crois que l'explication est simple, c'est qu'à cette époque, il y avait un essor extraordinaire des ONG humanitaires, Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières, etc. Et la visibilité de leur action, et on voyait tous les soirs aux journaux de 20 heures les victimes des catastrophes ou des politiques ou naturelles. Et l'humanitaire a cédé le pas à l'écologique à partir des années 72, la conférence de Stockholm. Donc c'est en quelque sorte une ingérence plus récente parce que la problématique est plus récente.
Mais alors ça, c'est intéressant, je trouve, Karine Gavant, parce qu'il y a 15 ou 20 ans, quand Mario Bettati et Bernard Kouchner mettent en avant ce concept du droit d'ingérence humanitaire et écologique, ils ont une réflexion systémique. C'est-à-dire qu'ils ont une approche, j'allais dire, globale, mondialisée de la question humanitaire et de la question environnementale. On a un peu l'impression quand même que la conférence qui vient de se tenir, la conférence environnementale, était très franco-française. Est-ce qu'on peut aborder la question de l'environnement aujourd'hui dans une géométrie si courte ?
Certainement pas. En effet, je suis d'accord avec vous, cette conférence environnementale, elle a traité des problématiques franco-françaises sans les inscrire dans une dynamique non seulement européenne, mais aussi internationale. Et c'est vrai que Mario Bettati a été assez visionnaire. Nous, on travaille de plus en plus avec les associations humanitaires et les associations de solidarité internationale. Pourquoi ? Parce qu'elles-mêmes, dans les pays dans lesquels elles interviennent, elles se sont de plus en plus impactées par les impacts du réchauffement climatique, notamment. Et donc, on travaille ensemble parce que nos combats sont communs et les solutions qu'on apporte, elles sont communes. Et c'est vrai que c'est regrettable parce que cette conférence environnementale qui vient de se terminer a traité essentiellement des enjeux franco-français sans les inscrire dans une dynamique européenne et internationale. Mais on peut revenir en effet sur cette conférence environnementale.
On va y revenir en détail avec un certain nombre de questions très concrètes et très pratiques, mais aussi sur cette question du droit. D'ailleurs, Mario Bettati signe aux éditions Odile Jacob un essai qui a pour titre « Le droit international de l'environnement ». Pas si simple, parce qu'il faudra qu'on parle aussi, Mario Bettati, des lobbies. Mais peut-être avant, quand même, Jean Pierrot, la façon dont tu as posé la question, c'est tous ceux que tu croises ici et là.
Eh bien, j'ai
J'ai posé la question principale, déjà personnelle. Comment on s'ingère? Seulement, voilà, la première réponse est avec une machine à coudre, donc je l'ai éliminée, mais le reste est valable.
Il y a des moments où tu as des petites faiblesses quand même, Jean.
Bah oui. Comment on s'ingère?
Avec de la force, il faut une puissance.
Déjà, on s'étant autoproclamé détenteur d'une vérité pour combattre l'autre. Ça ne laisse pas trop de place au doute.
L'ingérence comprend-elle forcément la divergence?
Il me semble que la définition du terme ingérence signifie forcément qu'il y a un esprit de divergence dedans. Forcément, on résiste, on va contre quelque chose et on intervient pour que quelque chose change. Donc, on est un divergent d'opinion.
Qui détermine le droit d'ingérence?
Celui qui décide de mettre sa force à s'ingérer dans cette situation en luttant.
Celui qui mène son action initiale détermine ce droit d'ingérence. Il a pris une initiative en réaction à une colère, à un besoin d'action immédiate pour montrer qu'il y a un problème.
L'ingérant, c'est un fouille-merde, un utopiste ou un résistant?
Un résistant.
Un utopiste, un peu, mais si son action contribue à faire que la société évolue dans le bon sens, bah c'est plus un utopiste. Son action aurait été utile.
C'est pas de l'utopie de vouloir faire plus attention à l'environnement. C'est de l'utopie, effectivement, si on considère que laisser ses habitudes de côté est quelque chose d'impossible à faire.
Les trois à la fois, mon colonel. Parce que... parce que si on s'ingère dans quelque chose, on est obligé d'être fouille-merde parce qu'on embête les puissants. On est utopiste parce que, oui, il faut porter une croyance dans quelque chose d'un avenir meilleur. Et résistant, évidemment, parce qu'on est face à ces forces contre lesquelles on lutte.
L'ingérence crée-t-elle la transparence?
Peut-être, oui, conduit à une forme de transparence, oui. À faire sortir des choses, en tout cas, oui.
L'ingérence, c'est plus que de la vigilance?
L'ingérence, oui, c'est plus que de la vigilance, dans la mesure où l'ingérence exige des actions en retour. C'est quelque chose de concret, qui demande quelque chose de concret. Il ne s'agit pas uniquement de faire attention, mais réellement d'agir.
C'est une forme de lobbying?
Oui, sûrement. Maintenant, je pense qu'il faut promouvoir des actions, pas nécessairement de protestation, mais pédagogiques.
Vous retrouvez-vous dans tous ces commentaires, Mario Bettati, sur l'ingérence?
Oui, dans les questions qui sont posées, surtout plus que dans les réponses, d'ailleurs, implicites. Je m'explique. Il y a un mot qui a manqué dans tout cet échange très riche, c'est le mot souveraineté. Car l'ingérence signifie quand même s'immiscer sur le territoire ou dans les compétences d'un État souverain. Or, précisément, dans ce qui concerne l'environnement, la souveraineté est un problème majeur. Je voudrais vous donner un exemple. Le droit international a fait reculer la souveraineté sur un certain nombre de questions écologiques majeures. L'exemple est le suivant. Depuis des siècles, le droit international de la mer, le droit maritime, reposait sur le principe de la loi du pavillon. Qu'est-ce que ça veut dire? Loi du pavillon, ça signifie que seul peut intervenir à bord d'un navire l'État ou le gouvernement dont ce navire a la nationalité, bat le pavillon, loi du pavillon. Or, précisément, ce principe a reculé considérablement en matière de pollution marine. Désormais, en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, Convention de Montego Bay, l'État qui est menacé d'une pollution majeure, pétrolier, etc., a le droit d'intervenir à bord d'un navire, même si ce navire n'a pas sa nationalité, donc on écarte la loi du pavillon, pour empêcher la pollution de progresser et de prospérer. Et cela comporte des prérogatives extrêmement importantes de l'État menacé, le droit de bombarder le navire. Alors vous me direz, est-ce que le bombardement ne va pas accroître la pollution? Non, parce qu'il s'agit bien sûr toujours de bombardement incendiaire, c'est-à-dire on brûle la cargaison. Obligation pour l'État du même coup d'intervenir aussi de manière plus pacifique en envoyant des dispersants lorsqu'il y a des nappes de pétrole qui qui s'étendent. Donc, il y a un changement majeur du droit international séculaire sur la loi du pavillon qui a été introduit par le droit de l'environnement.
J'ai entendu le mot utopie aussi dans les questions posées à l'instant par Jean-Pierrot, Mario Bettati. Une question tout de même, est-ce que ce concept de souveraineté résiste encore à l'enjeu environnemental? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une forme de justice transcendante qui, s'agissant en tout cas de l'environnement, éliminerait radicalement la question de la souveraineté, car elle n'a plus aucun sens en réalité?
Oui et non. En principe, vous posez la bonne question, parce qu'on peut se demander, compte tenu du caractère transfrontière des pollutions, il est naturel que ce soit de façon transfrontière qu'on s'efforce de les juguler. Mais il faut savoir aussi que la société internationale est ainsi faite que la mise en œuvre pratique des règles de droit international de l'environnement se font toujours par les autorités de l'État. L'État reçoit le droit international, l'incorpore dans son droit interne et l'applique par ses juridictions internes. Deux exemples très importants et très récents, 2010. Le premier, tribunal de Nice. Des ONG, et je salue la présence de Karine Gavan, car Greenpeace est un des fleurons des ONG actives dans ce domaine. À Nice, le tribunal a été saisi d'une requête de plusieurs ONG contre, tenez-vous bien, l'aménagement d'un sentier dans l'arrière-pays niçois, qu'on appelait les balcons du Mercantour. Pourquoi ? Parce que cet aménagement détruisait des espèces d'herbes qui étaient protégées. Et le Conseil général des Alpes-Maritimes a été condamné pour avoir détruit des herbes folles sur le bord d'un chemin. Alors on dirait, est-ce que les ONG ne font pas un peu n'importe quoi ? Pas du tout. En réalité, elles ont un rôle d'impulsion, mais de surveillance des miradors.
Bien sûr.
Deuxième exemple, toujours les ONG. IKEA, compagnie suédoise, en principe pure et aseptisée, a été condamnée par le tribunal de Marseille lorsque IKEA a construit un hangar gigantesque où elle recevait tous les produits qui arrivaient par bateau. Et là encore, les ONG ont introduit un recours devant le tribunal de Marseille parce que, en construisant ce hangar, IKEA avait détruit non seulement la flore, mais également la faune qui avait pour habitat cette flore. Et IKEA a dû payer une amende assez importante. Donc voilà des règles établies au niveau international, reçues au niveau interne et appliquées par les tribunaux nationaux.
Mais là, ce qui tombe bien, Karine Gavan, c'est que vous êtes vraiment chargée des questions politiques à Greenpeace France. Et là, cette question de la souveraineté est vraiment, me semble-t-il, une question centrale. Parce qu'au fond, la grande question environnementale, qui est maintenant une question existentielle pour nous tous, relève, me semble-t-il, de la gouvernance mondiale.
Sauf que cette gouvernance mondiale, aujourd'hui, elle n'existe pas. Et c'est précisément ce sur quoi on travaille. Je vais vous donner un exemple précis, c'est la campagne que Greenpeace est en train de mener pour protéger la région arctique. On sait que cette région, elle est vraiment prise dans un cercle vicieux. À savoir que les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale impactent clairement ce qui se passe sur cette zone qui est la plus vulnérable face au réchauffement de la planète. Et du coup, ce qui se passe, c'est que la banquise fond, et cette banquise en fondant, elle libère des routes, elle libère des gisements de minerais et de pétrole et de gaz, qui suscitent l'attention des groupes pétroliers et des États frontaliers de cette zone, qui veulent en profiter du coup pour exploiter encore un peu plus de pétrole. Donc on est vraiment dans un cercle vicieux. Or, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de gouvernance mondiale autour de cette région. Il y a autant d'États que de gouvernance sur ces sujets-là et de règles en pratique.
Ça veut dire autant d'intérêts.
Autant d'intérêts en jeu, en effet. Et ce qui se passe, c'est que les pays du Conseil de l'Arctique, qui sont frontaliers de cette zone, avec quelques pays riverains, refusent que la communauté internationale ait un droit de regard sur les règles de gouvernance qui peuvent décider pour cette région-là. Donc ce qu'on essaye de faire, nous, c'est d'obliger en fait ces États à accepter une gouvernance internationale. Pourquoi ? Parce que l'interaction entre cette zone et ce qui se passe à l'échelle planétaire, elle est très forte. Pourquoi ? Parce que plus on émet de gaz à effet de serre dans le monde et plus l'Europe, les États-Unis, la Chine émettent de gaz à effet de serre, plus ça impacte ce qui se passe dans cette région et notamment les habitants qui habitent, qui sont les peuples autochtones qui sont dans cette région-là. Et par ailleurs, plus la banquise fond, plus ça impacte ce qui peut se passer dans le monde entier, à savoir l'augmentation du niveau des mers. Par ailleurs, si on autorise les groupes pétroliers à aller chercher les ressources en hydrocarbures qui sont dans la zone, ça va avoir un impact aussi à l'échelle mondiale. Donc il y a une interaction très forte et pour nous c'est essentiel que la communauté internationale ait un droit de regard. Donc c'est ce qu'on essaye de demander, mais pour le moment on s'oppose aux pays et aux groupes pétroliers qui sont intéressés par les ressources qui se libèrent au fur et à mesure dans cette zone.
Alors comme on a la chance d'avoir un professeur agrégé de droit international avec Mario Bettati, on va tenter une question. Parce que le cas de l'Alaska, il est extraordinairement intéressant. On va aller chercher du pétrole. On va aller chercher du pétrole de tout temps, hiver comme été. Sauf que si un accident grave se produit en hiver, aujourd'hui, personne ne sait gérer une fuite de pétrole sous la banquise. Que dit le droit ? Et qu'est-ce qu'il faut faire ?
Alors, que dit-il ? La question devrait être un tout petit peu différente. Que devrait-il dire ? Car on est dans une situation un peu de, comme disent les juristes, de vacuum juris, une absence de droit pour l'article. En revanche, et peut-être pourrait-on s'en servir de modèle, il y a un texte sur l'Antarctique. Il y a une convention de 1991 qui est assez détaillée et qui prévoit notamment l'interdiction de répandre des substances nuisibles, pétrole en serait évidemment une, ou des objets et des ordures. Car bien souvent, les explorateurs oublient de faire le ménage quand ils repartent. Et par accumulation de ces substances et de ces objets, le risque de pollution s'était accru. Donc, on pourrait s'inspirer de la Convention de 91 pour l'Antarctique, transposer ces règles pour l'Arctique et ensuite, bien sûr, le compléter, car évidemment, ce texte est lui-même encore plein de lacunes. Mais c'est le propre de tout le droit de l'environnement d'être lacunaire. C'est une peau de léopard. Il y a des petits morceaux de droit assez efficace sur un certain nombre de secteurs. Puis à côté, il y a des grands vides qu'il conviendrait de combler.
Mais cette question, je trouve que votre essai vient à un moment très important politiquement. Ça ne m'étonne pas que ça vienne de vous, d'ailleurs, parce que j'imagine que ça a dû tourner dans votre tête depuis assez. Ça pose la question, en effet, de la gouvernance mondiale. Ça pose la question de la nécessité de passer à un étage de réflexion supérieur. La planète nous est commune, comme dit Edgar Morin, on est tous embarqués dans le même bateau. Et s'il y a une fuite d'eau quelque part, nous sommes tous concernés. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train, petit à petit, de mettre en place le soubassement, la structure d'une nouvelle définition de la politique ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous-même, pour Greenpeace ?
Greenpeace est très impliqué depuis de nombreuses années dans les négociations internationales sur le réchauffement climatique. On a évidemment participé activement à la négociation du protocole de Kyoto, mais on participe aussi activement à la négociation d'un nouvel accord international sur le climat, parce qu'il n'y en a pas, depuis l'échec de Copenhague, il n'y a pas eu d'accord contraignant qui a été acté par les États à l'échelle mondiale. Et c'est vrai que c'est un combat qu'on continue de mener parce qu'on a bien conscience que c'est un maillon essentiel de la chaîne. Oui, il faut des actions locales, il faut des actions nationales, régionales, mais on a aussi besoin d'un accord international. Pourquoi ? Parce que c'est aussi permettre de créer un climat de confiance entre les États. Si on sait que le voisin va faire pareil et qu'il est soumis aux mêmes règles, on est plus incité à le faire. On enlève une excuse aussi très forte qui est utilisée par nombre d'États et d'entreprises, à savoir les risques de perte de compétitivité, de délocalisation des emplois dans des zones où les contraintes sont moins fortes. Et du coup, cet accord international, on en a besoin. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on a énormément de mal à convaincre les pays d'agir. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression d'être dans un énorme Titanic, qu'on a beaucoup de mal à manœuvrer parce qu'on est dans une règle du consensus qui fait que chaque règle qui est proposée, aussi intéressante elle soit, elle met énormément de temps à être validée. Et parce que chaque État va bloquer l'ensemble de la décision tant que ses intérêts à lui ne sont pas respectés. En gros, rien ne sera décidé tant que tout ne sera pas décidé. Et donc, il va falloir arriver à manœuvrer ce Titanic, parce que sinon, on va droit dans le mur, on le sait. Et donc, on réfléchit à plusieurs options pour cela, à savoir essayer de redescendre un peu à un niveau local pour créer les conditions d'un accord mondial en faisant bouger les États un par un. Mais c'est un processus qui est un peu long, moi, ce que je crois, c'est que ce qui va accélérer les choses, c'est le choc de la crise. C'est que les événements climatiques extrêmes vont être de plus en plus forts, de plus en plus impactants, et que du coup, ça va forcer, je l'espère, les États à bouger.
Il y a une chose aussi qui apparaît, Mario Bettati, c'est d'une part, elle est légitime et normale, l'inertie des États, le poids de l'histoire, la structure politique, bon, l'inertie des États. Et on a l'impression, en réalité, que la bataille se fait entre vous, je veux dire les associations et les lobbies, c'est-à-dire les tenants de puissances financières telles, je pense évidemment prioritairement à celui du pétrole, ou du nucléaire d'ailleurs, il faudra qu'on en parle. Le choc des associations qui défendent une certaine définition de la protection environnementale et la puissance des lobbies, est-ce que c'est là que ça se joue aujourd'hui ?
Certainement. Je crois que, et vraiment je rends hommage à la présence de Greenpeace autour de ces micros, que leur rôle est essentiel. Je disais tout à l'heure, ce sont les miradors qui surveillent l'application du droit international à l'environnement. Leur capacité de mobilisation de l'opinion publique est essentielle. Parce que finalement, les États résistent à tout, sauf à un excès d'opinion publique, y compris sur leur propre territoire. Sinon, vous parliez de l'inertie, et vous avez raison, il faut savoir que, par exemple, les traités qui existent déjà ne sont pas ratifiés par tous les États. Oh, il y en a qui sont ratifiés par tous, ce sont les plus généraux. Quand on dit il faut respecter l'air, il faut respecter l'eau, etc., tout le monde est d'accord, bien sûr. Mais dès qu'on entre dans le détail, à ce moment-là, les intérêts et les lobbies dont vous parlez ressurgissent, et les ONG sont un peu dans la situation, la lutte du pot de terre et du pot de fer. Deux exemples. Sur les 500 traités internationaux concernant l'environnement, car ils sont 500, je peux vous dire que même les plus scrupuleux des écologistes, et je ne parle pas de vous, bien sûr, ne les ont pas tous lus. Il n'y a pas un seul député vert et qui a lu les 500 traités de droit international de l'environnement. Eh bien, rassurez-vous, je les ai lus pour vous. Et j'en fais la synthèse dans mon livre. Ce n'était pas toujours rigolo.
Non, mais j'imagine enfin, bon. Que vous n'avez pas fait.
Mais il fallait le faire pour essayer de ne rien rater. Or, sur les 500 traités, les ratifications sont beaucoup moins nombreuses que ce qu'on pourrait espérer. Celui qui est le mieux placé, c'est la Convention sur le changement climatique. 189 ratifications. Il y a 193 États aux Nations Unies. C'est plutôt bien. La Convention de Montego Bay sur le droit de la mer, 137 ratifications. C'est plutôt pas mal. Dès qu'on arrive sur des sujets économiquement plus sensibles, Convention sur les métaux lourds, 14 ratifications sur 193 États. C'est très clair.
Eh bien, il y a le business derrière et tout ce qu'on peut en faire de ces métaux lourds.
Absolument. La Convention sur la baleine, Dieu sait que Greenpeace a fait un travail héroïque sur ce domaine. La Convention sur la baleine, 19 ratifications.
Tout le monde s'en fout de la baleine.
Tout le monde s'en fout.
Non, mais c'est tragique.
Et enfin, le plus récent, mais en même temps le plus emblématique, la Convention sur les déchets dangereux, et sur leur transport notamment, 0 ratification.
Ouais. Et au passage, d'ailleurs, il paraît que le retraitement des déchets rapporte plus que l'argent de l'héroïne. Et ce sont les mafias mondiales qui se sont emparées du retraitement des déchets. Oui. Juste une chose, Karine Gavant, avant de recevoir le baiser de Mano, invraisemblable, incompréhensible. Le droit de polluer. On paye et on a le droit de polluer. Ça va durer longtemps ou pas ?
Pour le moment, oui. Et justement, je voulais revenir à ce que vous disiez sur le fait que les lobbies jouent un rôle extrêmement fort. C'était très clair à la conférence environnementale. À la table ronde sur l'énergie, le MEDEF a choisi de se faire représenter par l'industrie du pétrole, l'industrie du nucléaire et l'industrie de la chimie. Ce n'est pas représentatif du monde des entreprises d'aujourd'hui. C'est seulement les seuls qui ont des intérêts à ce que le statu quo perdure. Or, il y a des entreprises qui bénéficient de la transition énergétique parce qu'on sait que ça peut me permettre de créer des emplois et de créer des bénéfices. Et notamment les entreprises qui travaillent sur l'isolation des bâtiments ou dans le secteur des énergies renouvelables. Sauf qu'aujourd'hui, les entreprises qui sont à la table pour discuter à la conférence environnementale, c'est l'industrie du pétrole et l'industrie du nucléaire. Et donc pour le moment, c'est eux qui essayent, tant que faire se peut, de dicter la politique énergétique de la France.
Eh bien, il faudrait leur conseiller de lire